Bonjour et bienvenue dans Quartier Direct, l'émission du Bondy Blog et de Mediapart. Alors aujourd'hui, on va discuter du vote dans les quartiers populaires. Avant de commencer, je vais vous lire une citation. Si les quartiers populaires votent, nous serons au second tour. Alors cette citation, elle n'est pas de moi, elle est de Jean-Luc Mélenchon, qui l'a accordée à nos confrères du Dauphiné en août dernier. Alors, est-ce que le vote est si uniforme que cela, comme le pensent certains partis politiques ou certains leaders? Et surtout, pourquoi est-ce que le vote des quartiers se conjugue de plus en plus au conditionnel? Deux chiffres qui concernent nos invités. À Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne, le taux d'abstention était de 78%. À La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, le taux d'abstention était de 71% au second tour des dernières départementales. À titre de comparaison, dans le reste du pays, c'est 66%. Donc on a souvent 5, 10, 15, 20 points de différence dans le taux de participation à une élection qui était certes l'élection départementale. Alors, à l'aune de l'élection présidentielle et avec l'état du débat public, est-ce que le divorce est définitivement concerné entre les habitants des quartiers populaires et leur participation au vote? Pour répondre à cette question, deux invités, Farida Amrani, vous êtes conseillère municipale France Insoumise à Évry et conseillère communautaire de l'agglomération Grand Paris Sud. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, Ali Diouara, cadre de la fonction publique territoriale et cofondateur du mouvement La Seine-Saint-Denis au cœur depuis votre ville de La Courneuve. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ma première question, elle va aller pour vous, Farida. Vous avez été témoin pendant de longues années du système d'assaut en Essonne, à Corbeil, du clientélisme, notamment aussi lors de votre combat très médiatisé contre Manuel Valls en 2017. Est-ce que vous, au quotidien, lors des élections qui succèdent, vous sentez que c'est de plus en plus dur de convaincre les gens, non seulement de voter pour vous, mais de voter tout court?
Effectivement, il y a eu un combat, comme vous l'avez dit, et je pense qu'on avait réussi à cette époque-là, en 2017, à faire voter beaucoup les quartiers populaires, puisque déjà pour la présidentielle, en tout cas notre secteur, la participation avait atteint un record pour une ville de banlieue et notamment une ville avec les quartiers populaires comme à Évry et Corbeil. De mémoire, on était pratiquement dans la moyenne nationale. Donc c'était déjà un effort important. Et pour la législative de 2017, on avait une continuité. Et je pense que le fait qu'il y ait eu de la triche, puisque c'était reconnu par le Conseil constitutionnel, ça a quand même jeté... jeter de l'opprobre en fait sur cette élection-là, et ça a découragé. Et depuis ce jour-là, beaucoup de gens me disent mais ça ne sert à rien de voter puisque déjà tout est tronqué, tout est joué d'avance.
Le tous pourri aussi qui revient. Alors, est-ce que vous le ressentez vous sur le terrain, ou est-ce que ça dépend aussi de l'élection?
Alors tout dépend de l'élection, puisque effectivement normalement quand on fait une élection locale en France, la plupart des gens vont voter puisqu'ils ont un amour pour une élection, notamment municipale, parce que
surtout
c'est les enjeux.
Municipal.
Voilà, ils ont un enjeu et surtout, ça répond, c'est censé répondre à leurs problématiques directes de leur vie quotidienne. Or, on se rend compte, effectivement, au fur et à mesure, et on prend exemple de la dernière municipale, où le taux était énorme, parce que là, vous parlez de 78% pour une départementale, mais pour une municipale, c'était pratiquement 71% sur cette ville-là. Donc, on reste dans entre 69, 70, 80, 72, ça peut aller jusqu'à 78, comme vous le dites. Mais les gens, en fait, ne se sentent plus, dans les quartiers populaires, ne se sentent plus considérés. Ils se sentent les oubliés, malgré le fait qu'ils habitent une ville de 70 000 habitants maintenant. Et en fait, quand on va les voir, nous, on n'a jamais quitté les quartiers. C'est-à-dire que nous, on y retourne quotidiennement, qu'il y ait ou pas une élection. Le but, c'est qu'on crée en fait un lien et du dialogue. Moi, j'avais toujours besoin de savoir pourquoi, justement, nos quartiers ne vont pas voter. Et dans nos quartiers, ceux qui ne vont pas voter, c'est plutôt les hommes, les jeunes hommes. Parce que les femmes et les jeunes filles veulent de plus en plus faire entendre leur voix. C'est-à-dire qu'elles se disent, c'est possible, au niveau national, parce qu'ils se disent, si je veux me sortir en fait du quartier... et faire quelque chose de ma vie, il faut aussi que je m'implique dans la vie locale. Dans la vie locale, l'implication, elle est très simple. Quand on est maman, on est impliqué dans la vie locale. C'est-à-dire qu'on suit le fil de l'éducation de ses enfants. Donc du coup, soit on est parent d'élève, mais malheureusement, encore une fois, il y en a très peu, même s'ils sont parents d'élève sur le papier, il y a très peu d'implication des parents. Moi, je le vois, puisque j'ai commencé en tant que parent d'élève. on retrouve toujours les mêmes à peu près qui s'impliquent. Mais quand on les alerte quand il y a des parents qui sont là, qui suivent l'actualité, mais quand on les alerte sur des points bien précis, ils savent se mettre en mouvement. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire quand on les alerte, quand on leur donne l'information, parce qu'ils n'ont pas forcément l'information, on a beau leur donner des tracts, ils ont beau regarder la télé, mais quand, voilà, il faut qu'ils se sentent concernés. Je parle des femmes, hein, puisque c'est plutôt les femmes qui ont cette conscience, j'ai l'impression. Mais j'ai aussi également rencontré des jeunes hommes qui commençaient à avoir cette conscience, qui se sont dit, en fait, on est les oubliés, on vient nous voir à chaque fois qu'il y a une élection, la veille d'une élection, hein, c'est même pas quelques mois. Dire, ils ne font même pas l'effort, les partis, en fait, et les hommes et femmes politiques, ils ne font pas l'effort d'aller les voir. Je veux dire, allez, 6 mois avant. Même cet effort, il n'est plus fait. Donc, ils ont l'impression d'être pris vraiment pour... en fait, on se fout un peu d'eux en leur disant, ben, on vient vous voir juste la veille parce qu'on a besoin de votre vote. Et en fait, ils l'ont déjà donné leur vote à plusieurs reprises, notamment à l'époque de la gauche plurielle, etc. Le vote a été donné et ils se sont rendus compte qu'on leur demandait le vote, mais ils n'avaient rien en retour. C'est-à-dire que les services publics disparaissaient quand même des quartiers, que l'éducation de leurs enfants se dégradait, la réalité elle est là aussi, hein, et que les transports n'étaient pas mieux. C'était toujours enclavé. Donc du coup, ils disaient, écoutez, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite, ouais, mon vote ne sert à rien.
Ali Diouara, vous avez fondé le mouvement Seine-Saint-Denis au cœur pour vulgariser, améliorer l'accès à la sphère publique. Vous, vous auriez pu très bien, entre guillemets, donner votre voix ou vous investir dans un parti traditionnel classique. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là?
Tout simplement parce que je n'y crois plus. Je n'y crois plus, je ne crois plus aux formations politiques traditionnelles parce que, comme j'aime à dire, en tout cas à redire, j'estime que, en tout cas dans notre secteur, en tout cas en Seine-Saint-Denis et particulièrement à La Courneuve et dans les villes limitrophes, que la gauche, entre guillemets, a trahi et qu'aujourd'hui, la population et les personnes qui vivent dans les quartiers populaires ne se retrouvent plus à travers, j'ai envie de dire, au-delà des actions, mais aussi des valeurs. Quand dans des villes foncièrement ancrées à gauche, on commence à mettre des projets en place comme la création d'une police municipale, là où quelques années avant on fustigeait même la création d'une telle structure dans notre ville, ça commence à poser question quand on voit, comme le disait Farida à l'instant, la fuite peu à peu des services publics dans les quartiers et notamment des services publics de grande proximité. À La Courneuve, il y a quelques semaines, un de vos confrères évoquait la fermeture du bureau de poste des 4000 depuis maintenant bientôt 5 mois, qui devrait rouvrir lundi. Et voilà, mais quand on voit un peu la disparition du bureau de la CPAM, de la CAF et bien d'autres services publics de proximité en direction des populations les plus fragilisées et que de l'autre côté, on a toujours les mêmes personnes qui sont aux commandes et au pouvoir, on se pose quand même pas mal de questions. On se dit, à quoi sert notre voix? Et c'est ce qui aujourd'hui pose question. Et moi, dans mon engagement, là où je ne souhaitais pas forcément reproduire les mêmes erreurs qu'un certain nombre d'aînés, à la fois dans une certaine forme d'entrisme, mais de l'autre côté, en me disant que finalement, c'est un peu comme, je sais pas, il y a un bouquin comme ça, un petit bouquin de Simone Veil qui prônait la. Elle avait fait une note sur la suppression générale des partis politiques où elle prenait vraiment la disparition de ces partis dans la mesure où elle estimait que, en fait, ils étaient trop pris dans un étau de passion et que ça ne pouvait pas permettre, en tout cas, l'émergence de nouvelles idées autres que celles qui sont portées par les intérêts, j'ai envie de dire, du parti et notamment un certain nombre d'intérêts économiques. Et on n'est plus vraiment dans les valeurs. Et moi, j'aimerais qu'on se retrouve dans des valeurs et des valeurs sur lesquelles on ne déroge pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec d'autres, avec Bakary Soukouna de Saint-Denis, avec Mohamed Jaouné, avec pas mal d'autres personnes, on a décidé de créer ce mouvement-là avec, dans un premier temps, vraiment vulgariser la vie publique, permettre l'intérêt pour la sphère publique des populations qui sont de plus en plus éloignées de cela, et ça date pas d'aujourd'hui, dans fut un temps, Tocqueville à son époque évoquait déjà les difficultés de la démocratie, en tout cas ce qu'il estimait être un danger pour la démocratie, et ce recul de la sphère publique, de l'intérêt pour la sphère publique des populations de manière générale, hein, puisque là on prend les élections départementales, mais les municipales, quand bien même il y a le Covid, on est quand même dans une constante qui montre que les personnes, c'est pas qu'elles ne s'intéressent plus, mais c'est qu'elles ne font plus le choix d'aller voter, parce que voilà, on est dans des situations où on appelle à de l'immédiateté dans les réponses politiques, et cette immédiateté-là, ou à court terme, on ne l'a plus. Et même dans les mairies, vous parliez du résultat à La Courneuve, où je tiens quand même à modérer un peu les choses, pas modérer, mais en tout cas relativiser un peu les choses, c'est que aujourd'hui à La Courneuve, lors de l'élection départementale, on a eu 71% d'abstention, certes, mais que lors de la municipale, on en a eu 73, plus de 73%. Donc ce petit 2 points, il veut dire quelque chose, parce que l'élection départementale, c'est une élection où tout le monde s'en fiche royalement. Personne calcule cette élection-là. Et que quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, et qu'on vient par exemple aux 4000, on se rend compte qu'il y a eu plus de 35% des suffrages viennent de ce secteur-là, alors que la ville, c'est une ville de 44 000 habitants, donc 35% des suffrages viennent de ce secteur-là. On n'a jamais autant voté dans une élection que dans ce quartier-là, dans une élection locale que dans ce quartier-là. Et c'est quand même qu'il y a quand même un espoir aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. On voit que les choses changent, hein, mais pas que de manière urbaine. Elle change aussi fondamentalement dans la conscience des gens. Les gens ont de plus en plus conscience parce qu'ils voient de nouveaux visages. Moi, j'ai suivi un peu la campagne. De toute façon, comment on ne pouvait pas la suivre. Mais voilà, j'ai suivi un peu la campagne avec Farida et Ulysse, il me semble.
Ouais, Ulysse Rabat.
Et à l'époque, voilà, aujourd'hui, il y a eu un intérêt, il y a eu un engouement derrière cette campagne-là, mais parce qu'on voyait de nouvelles personnalités arriver et les gens les connaissent. Farida évoquait tout à l'heure son rôle de représentante de parents d'élèves. À un moment donné, ça commence là, en fait, l'engagement, il commence là, il commence dans les associations, il commence sur le terrain, il commence à la boulangerie, il commence à la poste, il commence à la pharmacie. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a davantage tendance à davantage entrer ou créer des mouvements ou créer des dynamiques, mais pas forcément intégrer directement des mouvements politiques traditionnels.
Ça pose la question de l'importance ou relative du coup du parti politique. On voit le parti socialiste totalement s'effondrer en termes d'adhésion. On a vu le cas du parti communiste. Vous, Farida, en tant que élue France insoumise, représentante mine de rien malgré vous de la gauche plurielle, est-ce que vous vous dites on est en train de rater quelque chose? Et avec l'horizon des présidentielles et des législatives. Alors, Jean-Luc Mélenchon vient de sortir son livre programme cette semaine. Mais est-ce que vous dites, est-ce que moi, Farida, je suis peut-être à contre-temps d'une génération dont l'engagement passe par d'autres champs? Ou est-ce que il y a toujours une voie qui est possible pour les partis politiques de gauche de capter un électorat ou en tout cas des thématiques essentielles devant lesquelles ils passent un peu à côté?
Alors, moi, je pense que les partis sont loin d'être morts, mine de rien. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je pense que les gens tiennent quand même justement. Parce qu'on l'a vu, moi je l'ai vu aux dernières élections, tout le monde, en fait, tous les logos ont disparu, il n'y avait plus de logo nulle part, c'était tous, on est tous société civile, ce grand terme, etc. Donc tous les logos ont disparu, et moi je voyais que les habitants cherchaient les logos. Moi on me disait, mais c'est de quelle tendance? Ils ne savaient plus quelle était la tendance des affiches qui étaient sur les panneaux. Ils ne connaissaient plus, donc il y a aussi cette perte. Par contre, effectivement, en tout cas en ce qui concerne mon mouvement, puisque ce n'est pas un parti politique, mais un mouvement, dans le mouvement dans lequel je m'inscris, il est fait de femmes et d'hommes issus de la société civile, entre guillemets, issus, c'est-à-dire que c'est des parents d'élèves, des syndicalistes, c'est des travailleurs, des travailleuses, c'est des étudiants, c'est des gens qui connaissent la réalité, qui vivent en fait la réalité tout simplement.
Il y a aussi des professionnels de la politique.
Il y a aussi des professionnels de la politique, et en fait, les gens, je veux dire, la population, en fait, les gens comme moi, justement, de temps en temps, ils font redescendre ces personnalités politiques en leur disant « la réalité, c'est pas ça ». Et c'est ça qui est important aussi, c'est de dire « vous vivez dans une sphère, etc., mais la réalité, nous, on la vit dans nos villes, c'est ça ». Et de temps en temps, c'est bien. D'ailleurs, on le voit bien dans le discours de Jean-Luc Mélenchon qui a complètement évolué et changé et qui s'est adapté en disant « je sais que ça se passe parce que nous, on est là et on lui rapporte, en fait, on lui explique la vraie vie, entre guillemets ». Et ça, c'est important. Et pourquoi je tiens, moi, à avoir justement ce... à continuer c'est avec les partis ou les mouvements politiques? Parce qu'il y a une structure. Et quand il y a une structure, pour moi, en tout cas, je suis issue du monde syndical aussi, donc à chaque fois qu'il y a une structure, c'est les hommes et les femmes qui font cette structure. Le PS, demain, il peut peut-être se relever ou autre chose. Si les femmes et les hommes qui font partie de ce parti, qui sont à la base, je ne parle pas des personnalités politiques, mais des gens qui cotisent, je veux dire, ceux qui le font vivre et qui l'ont fait naître, se prennent en main et disent, ben, à un moment donné, ça suffit. Et nous, en tout cas, avec l'Union populaire, c'est, on joue là-dessus. En tout cas, pas on joue, mais on espère que, justement, les gens vont prendre conscience qu'on peut être de n'importe quel bord, mais quand on y a un programme et qu'on est d'accord sur un programme établi ensemble avec la population concernée, les populations, les professionnels, ben, je pense que ça marche. On l'a vu un petit peu dans d'autres pays et ça fonctionne.
Ali Djouara, quand on voit l'état du débat public aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de discuter de santé, on n'a jamais eu autant besoin de discuter de précarité, vous, sur le terrain, à la Courneuve, est-ce que vous le ressentez, le ras-le-bol par rapport à l'élection présidentielle? Est-ce que les gens y pensent ou pas du tout?
Non, très sincèrement, sur le terrain, les gens ne parlent pas de politique. Ils parlent ils parlent de politique, mais de la politique dans leur vie de tous les jours, en fait, le quotidien. L'élection présidentielle, pour eux, bien que ce soit l'élection avec l'élection municipale qui passionne le plus, quand on dit qui passionne le plus, c'est celle qui amène le plus de personnes à aller voter dans les bureaux de vote, donc, bien que ce constat existe aujourd'hui, bah, les personnes sur le terrain bah, s'intéressent à... ont plein d'autres préoccupations. Et ces préoccupations, bah, c'est l'éducation de leurs enfants, c'est l'école, c'est la cantine scolaire, c'est on parle de précarité notamment énergétique. Ces dernières semaines, on le voit, quand on voit qu'on est aujourd'hui à l'aune des 3 ans du mouvement des Gilets jaunes et que finalement, rien n'a changé. Finalement, la vie est toujours aussi chère, l'inflation est toujours élevée, et pour autant, le niveau de vie de la population, et particulièrement des personnes les plus précarisées, n'augmente pas. Donc ça, c'est les préoccupations des gens du quotidien, et à ces questions-là, à ces problématiques-là, eh ben, on trouve pas de solution, j'ai envie de dire, structurelle, notamment dans les quartiers populaires. Moi, j'ai pas envie de parler de tous les quartiers populaires, mais en tout cas, ceux dans lesquels j'aime me balader ou aller à la rencontre de pas mal de monde, bah finalement on retrouve quasiment toujours les mêmes similitudes. On a parfois des codes, même de langage, qui vont changer, mais concrètement sur le terrain, c'est ça les premières préoccupations des gens. Donc souvent on me dit oui, politique Macron, etc. Mais quand vous allez sur le terrain, personne vous parle d'Emmanuel Macron. Moi, je n'entends pas parler du président de la République ou des ministres. Et pourtant, C'est ces personnes-là qui, de par leurs agissements, de par leur action gouvernementale et autres, bah, impactent forcément le quotidien des gens. Et ça, je trouve qu'on, voilà, aujourd'hui, il y a pas une absence, mais en tout cas, on n'a pas assez conscientisé, pas assez appréhendé ou apprécié, j'ai envie de dire, la place que le politique a dans nos vies. En fait, on se dit que c'est tellement éloigné, que ces gens sont tellement loin, que finalement, le temps que ça arrive chez moi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les élus de proximité, de grande proximité, les maires, les adjoints aux maires, les conseillers municipaux délégués, les conseillers municipaux d'opposition aussi, ont un rôle primordial aujourd'hui dans la remontée d'informations, dans comment accompagner les habitants à faire face finalement. On nous a sorti un peu un mot à la mode durant la crise sanitaire qui était le mot résilience. La résilience, on y fait face depuis la nuit des temps, hein, en banlieue et dans nos quartiers. Donc on n'a pas manqué même d'être très résilient, notamment dans le gros de la crise sanitaire, avec des initiatives un peu spontanées qui se sont montées du jour au lendemain, de dons alimentaires, de distribution alimentaire, de distribution de gel hydroalcoolique, de confection de masques, d'aller amener de l'eau chez une personne âgée, voilà, des jeux comme ça de relais. Et là, à ce moment-là, on s'est rendu compte que le politique n'était pas forcément là, en tout cas, moi, je ne l'ai pas tellement vu. Et ça pose quand même pas mal de questions. Donc, voilà, moi, je crois que la place du politique est quotidienne, mais qu'on je vais pas dire qu'on n'y croit plus, Mais voilà, on a besoin de nouveaux espoirs. Et ces nouveaux espoirs, je pense qu'ils peuvent être incarnés par des gens, comme on dit, des gens du cru, et chez nous, des gens du terre-terre, comme on dit. Mais voilà, on a besoin de nouvelles personnes qui puissent incarner cela et bouger fondamentalement les choses. Parce que voilà, là aussi, je disais tout à l'heure que la gauche a trahi, mais en fait, les partis politiques, j'ai envie de dire, ont trahi, que ce soit la gauche ou la droite. Un exemple tout bête, mais quand on a... Depuis 10, 15, 20 ans, pris des individus et qu'on en a fait, j'ai envie de dire, un peu la caution citoyenne des listes électorales, notamment des municipales, et qu'en fait, on a isolé toutes ces personnes-là de sorte à ce qu'elles ne forment pas un groupe de citoyens à l'intérieur, bah, c'était déjà une première trahison, parce que finalement, ces personnes-là n'avaient aucun pouvoir à l'intérieur et n'en ont toujours pas. Donc,
et puis finalement, couper de la base aussi.
Mais complètement, parce que finalement, en fait, on vous casse dans un truc, alors que les personnes, comme l'a dit tout à l'heure Farida, bah, c'était représentante parent d'élèves, c'était responsable d'une association, c'était bénévole dans un club sportif, c'était la personne chez qui on allait pour faire une lettre de motivation, un CV. C'est toutes ces personnes-là, finalement, qu'on a éloignées peu à peu, j'ai envie de dire, un peu du terrain. Et pourtant, ces personnes-là, à l'intérieur, pour un certain nombre d'entre elles, bah, elles se tuent à la tâche. Elles essayent de faire bouger les lignes. Elles essayent de j'ai envie de dire, un peu de bousculer l'establishment politique, notamment local, mais c'est quand même très compliqué. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut impulser quelque chose de nouveau, de neuf, en incluant, j'ai envie de dire, un peu toutes les composantes de la population. Parce que là aussi, il faut pas... Parfois, j'ai l'impression qu'on intellectualise trop le débat, ce qui fait que d'autres personnes s'en éloignent et disent, bah, en fait, finalement, c'est pas pour moi. Mais il y a rien là, c'est pas compliqué, il y a rien de politique que de dire qu'il faut mettre un panneau de signalisation à cet emplacement-là parce que c'est une avenue qui est trop, qui est fréquentée et qui est prise d'assaut par les véhicules et à grande vitesse. Donc il faut peut-être mettre un panneau de signalisation ou un dodane supplémentaire. C'est pas compliqué, ces choses-là. Donc moi, je pense que voilà, vraiment, il faut faut repenser vraiment la politique et l'engagement politique et pas voir dans l'émergence de personnalités ou en tout cas de femmes et d'hommes, citoyennes ou autres, ou même femmes et d'hommes politiques dans des partis. Il faut pas voir dans cette émergence-là un danger, un risque, mais surtout une chance et une solution pour véritablement atteindre, j'ai envie de dire, un peu ce semblant d'égalité qu'on ne trouve plus dans nos quartiers, d'égalité républicaine du moins.
Farida, pour rebondir sur les propos d'Ali, nous au Bondy Blog, depuis des années, on chronique une vitalité dans les initiatives citoyennes, qu'elles soient dans la santé, qu'elles soient économiques, qu'elles soient maintenant environnementales. Ali en parlait. Et de l'autre côté, ça tranche avec des conseils municipaux qui ressemblent, ou des conseils départementaux, mais de manière générale, des assemblées politiques où le pouvoir politique est toujours là, mine de rien, le pouvoir décisionnel est toujours là. On a une dichotomie qui est toujours là, malgré le fait qu'on soit en 2021. Vous, en tant que conseillère municipale, mais aussi en tant que femme politique qui s'est déjà présentée à des scrutins, qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne sont pas intéressés par le vote ou ne sont pas intéressés par le fait de prendre position, de participer à la vie politique ou politicienne de la cité?
Alors, la plupart des gens nous disent, moi, la politique ne m'intéresse pas. Mmh. Moi, je réponds à ces gens-là et je l'ai toujours fait, et c'est ce que je leur dis. Effectivement, vous ne vous intéressez pas à la politique, mais la politique, elle s'intéresse à vous, elle est partout. C'est-à-dire qu'elle est autour de vous au quotidien. Donc, ok, je peux comprendre le fait qu'on se dise, comme tu disais, la gauche a trahi ou tel parti politique a trahi. Mais à un moment donné, on est quand même maître, je veux dire, de son avenir. Aujourd'hui, on leur dit, vous n'avez pas été obligé de choisir, puisque tu disais, on ne sait pas où risque d'aller le vote de ces quartiers, si jamais ils décident de voter. Sauf qu'en fait, moi, je leur dis, allez voter, même blanc, mais déplacez-vous. C'est important. Le fait de mettre un bulletin dans l'urne et de signer un cahier d'émargement, c'est important. Parce que le cahier d'émargement, il ne reste pas... fermé vitam eternam. Il est utilisé par les élus. Il est utilisé justement en disant, ah, dans ce quartier-là, ça vote. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter leur vote? C'est toujours par intérêt, en fait, aujourd'hui. Mais si les gens se disaient, bah, écoutez, moi, je vais me prendre en main, je vais m'investir au quotidien dans ma ville pour justement changer ça, parce que, comme tu disais, aujourd'hui, il y a des associations qui se montent, mais elles n'ont aucun pouvoir quelque part, à part un pouvoir en disant, il faut aller manifester ou il faut être présent pour pouvoir dire au maire, bah, voilà, moi, je représente tant d'électeurs, donc là, j'ai un poids. J'ai un poids électoral. Moi, je dis aux gens, bah, écoutez, tout simplement, si vous décidez de vouloir changer tout ça, c'est simple, hein, il y a aussi la 6e République. La 5e République est faite comme ça. Aujourd'hui, c'est la majorité. Qu'on fasse un score, je veux dire 40%, la majorité, c'est la liste qui fera 50%, qui aura le plus d'élus. C'est comme ça, c'est la 5e République. Et si on veut changer ça, eh ben, il faut aussi passer à une autre République, je pense. Okay. Et ça ne pourra pas se faire sans la population et sans les gens. Ça, c'est sûr.
Ali, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter?
Non, moi, je suis assez, j'ai envie de dire, un peu partagé, parce que de l'autre côté, on se dit que, oui, si la politique, si vous ne vous intéressez pas à la politique, bah, attention, la politique s'intéresse à vous, c'est une chose. Mais quand on fait le choix de s'engager en politique, on fait surtout le choix de s'assurer, en tout cas cet engagement-là, il a pour objectif de se dire qu'on va permettre le mieux vivre ensemble, qu'on va permettre, qu'on va accompagner, j'ai envie de dire, la population à s'élever d'une certaine manière, à trouver sa place. Et aujourd'hui, bah, on est vraiment, c'est ce que je reproche vraiment aux partis politiques traditionnels, en tout cas aux réflexes politiques qui sont de dire, l'exemple du cahier d'émergement est criant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va prendre le cahier, on va se dire, non, il y a un problème dans ce quartier-là, bah, attends, on va regarder dans le carnet, est-ce que les gens votent ou pas? Bah, ils votent pas, bah, en fait, on s'en tape, quoi, clairement. Donc, eux, on peut les mettre de côté. S'il y a un budget à mettre, c'est pas ici, il faut le mettre peut-être ailleurs. Et malheureusement, c'est ça, mais ce constat-là, il est quand même assez symptomatique, moi je dirais pas 6e République ou pas, mais il est assez symptomatique d'une démocratie qui est complètement malade et qui, franchement, qui n'avance plus. Aujourd'hui, on est clairement dans ça et on est dans voilà, en termes d'égalité, tout à l'heure on évoquait, en termes de justice sociale, on parlait de précarité énergétique, mais de justice sociale, d'égalité, même de liberté. Aujourd'hui, on n'est pas autour de la table du débat public, du débat présidentiel et des débats législatifs qui vont suivre. On n'est plus autour de la table. Donc moi, oui, je suis d'accord. Oui, si les quartiers populaires votent, je ne dis pas qu'ils voteraient pour Jean-Luc Mélenchon, mais si les quartiers populaires votent, la donne changera. C'est une certitude, parce que malheureusement, on est dans une politique aujourd'hui, dans une démocratie, où le politique fonctionne uniquement par intérêt, fonctionne uniquement dans l'esprit et dans la préservation de son confort politicien, de comment il va être maintenu, même pas au pouvoir, mais à son pouvoir à lui, à son confort à lui, et ça, c'est ce qui nous pose problème. Et là où oui, je pense qu'il est intéressant d'être dans des structures. C'est important d'être dans des structures. En tout cas, c'est important de combattre dans ces structures-là et de s'engager. Mais il est aussi important de créer des contre-pouvoirs à ces structures-là, de se dire qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui personnalise beaucoup la vie publique. En fait, le jeu des étiquettes, il marche plus tellement, finalement. On l'a vu lors des dernières élections. Pour des départementales, ça va marcher, mais pour des municipales, où les gens connaissent tout le monde se connaît, bah, ça marchera plus tellement. On est vraiment dans une personnalisation de la vie publique où on fait confiance à des personnes. On se dit, oui, bah, tiens, Fakeda, bah, moi, je la connais, elle était là, elle a fait ceci, elle a fait cela. Voilà. Robert ou Clément ou Johanna, moi je les connais pas, désolé, mais je les connais pas, donc moi je vais donner ma confiance à cette personne. Oui, mais elle est dans quel parti? Souvent la question du parti, elle se pose. Moi, quand j'ai fait campagne, oui, mais tu fais pour quel parti? Je dis, non, on n'est pas de parti. Pas de parti, on est juste des citoyens, on se connaît ou on se connaît pas, mais voilà, tenez notre programme, lisez-le. Même ce truc de liser le programme, aujourd'hui c'est très difficile. On lit plus les programmes, voilà, donc moi je crois vraiment au renouvellement de la politique locale de proximité, j'y crois, et je pense que c'est à partir de là qu'on arrivera à faire changer les choses étape par étape. C'est ce que je pense.
Juste, si je peux rajouter quelque chose, pour pouvoir changer tout ça, justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais pour pouvoir changer ça, c'est-à-dire qu'il faut un socle. Je veux dire, on peut pas avoir une ville où, gagner une élection avec seulement 5%, entre guillemets, quand on fait avec 5% de participation, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi changer les règles. Et les règles, elles se changent au plus haut niveau, on est bien d'accord. Mmh. Donc, à un moment donné, il faut que ça soit reconnu. C'est-à-dire qu'il faut un socle. Mmh. C'est soit rendre effectivement le vote obligatoire. Après, pourquoi pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il va falloir avoir un minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir d'un certain seuil, être élu. Pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait que ça soit représentatif de la ville. C'est-à-dire, si la ville a fait 5000 habitants et que tu as 3 personnes qui vont voter, ils font l'élection. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Mais comment on change ça? Et ça, malheureusement, ça se change au plus haut niveau. Et on espère en tout cas changer concernant la 6ème République.
Mais en tout cas, merci à tous les deux.
Merci
donc,
énormément.
Changeons les règles, sortir de la stratégie électorale et pensons aux plus fragiles. A priori, c'est les 3 termes de l'émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Quartier Direct du Bondi Blog et de Mediapart. Vous pouvez nous lire, nous regarder et nous écouter.